Carlos Ferrero. 7 années de collaboration ont permis Alcaraz de devenir le numéro 1 mondial. Voilà, l'information continue sur RFI. À suivre, Accent d'Europe.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
C'est l'avant-dernière émission de l'année 2025. Que d'émotion, dis donc, Sidonie, hein ?
Déjà, ça y est, c'est passé trop vite cette année.
Mais toi, ça fait combien de temps ? Ça fait 2 mois et demi maintenant ?
Tout juste,
ouais. Ouais, tout juste. Bon, ça se passe bien pour l'instant ?
C'est nickel, ça change pas. On profite toujours autant.
Bon, bah c'est dommage qu'on puisse pas t'inviter pour que tu sois le sujet de l'émission, parce qu'on a déjà des invités, donc on va les accueillir dans quelques instants. On va être avec les Folies Angevines qui seront assez folles en cette prévision de fin d'année, avec plein de fêtes au programme, même des dîners, puisque justement on va parler d'un dîner-spectacle, celui du cabaret des Noctambules. Capucine et Antoine vont être avec nous dans quelques instants, et Pauline, bien évidemment, notre voix radiophonique des Folies Angevines, qui vient normalement, le mois dernier elle n'a pas pu parce que t'étais un petit peu cassée la voix, elle était un petit peu malade, mais c'était Anne qui était venue à la place de Pauline, mais là elle est bien de retour ce soir pour nous parler des autres dates aussi de la programmation des Folies Angevines. Au cours de cette émission, c'est vraiment les surprises de fin d'année, je ne sais pas si Choupi Matoudi sera avec nous ou pas. Surprise. Pronostic, Sidonie ?
Je pense qu'elle sera là, enfin j'espère.
On espère, on croise les doigts en tout cas, nos pattes de chat même, si j'ai envie de dire. En tout cas, on aura bien la Madeleine du Graal juste avant, à 18h35 environ. Et bien sûr, nos invités sont avec nous déjà en studio. Topette, c'est parti pour l'avant-dernière.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Alors ce soir, pas de flash info, mais un papier de toi, Sidonie.
Aujourd'hui, nous revenons sur un moment fort de mémoire et d'histoire locale. L'inauguration du Jardin des Justes parmi les nations à Noëlé dans l'Ombré d'Anjou. En hommage à 2 habitants du village qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé 9 enfants juifs. Dimanche 7 décembre, en présence d'élus de la sous-préfète Jamila Medjahed et surtout de Bernard Goldberg, l'un des 8 enfants encore vivants, la commune a officiellement donné ce nom au jardin du Lavoir. Un geste symbolique mais lourd de sens. Inscrire dans la pierre, au cœur du village, la mémoire de ceux qui ont résisté, non pas par les armes, mais par l'humanité. Anne-Marie Paguet et l'abbé Xavier Terrien, tous les 2 habitants de Noëlé, ont abrité et caché ces enfants entre 1942 et 1945, une époque où la répression en Anjou s'intensifie. Rappelons qu'en 1942, 871 juifs d'Angers sont déportés vers les camps en Pologne, dans les convois qui partent souvent de la gare Saint-Serge. À Noëlé, personne n'a dénoncé, personne n'a parlé. C'est un village entier qui a tenu bon. En 2008, Yad Vashem, l'Institut mémoriel de la Shoah à Jérusalem, leur a attribué le titre de juste parmi les nations, la plus haute distinction civile délivrée par l'État de l'Israël à des non-juifs ayant risqué leur vie pour sauver celle de juifs. Depuis 1963, 30 000 justes sont reconnus dans le monde, dont 22 000 ont reçu une médaille. La France compte environ 2 900 justes et le Maine-et-Loire seulement 27. 2 d'entre eux reposent déjà dans la mémoire de Noëlé. Ils ont désormais un lieu qui porte leur nom. Ce nouveau jardin vient remplacer un premier hommage datant de 2005. Un pommier planté près du Lavoir. 20 ans plus tard, l'hommage devient un véritable lieu de transmission, comme le souligne Bernard Goldberg, très ému. C'est une magnifique initiative, elle rappellera que 2 justes ont vécu ici et ont incarné l'honneur de la France. Pour les élus, l'enjeu est clair, lutter contre l'oubli. Catherine Corambaum, déléguée régionale du comité Yad Vashem, insiste d'ailleurs sur l'importance de multiplier ces lieux de mémoire. 13 maires ont été contactés dans le département, 6 ont déjà accepté d'engager une démarche similaire. Ils veulent que chaque territoire rappelle à sa manière que même dans les heures les plus sombres de l'histoire, certains ont choisi la justice. Un message que partage la sous-préfète. Sauver un enfant, c'est sauver un monde entier. Ce jardin du Lavoir, au bord du ruisseau des Nymphes, devient ainsi un point d'ancrage pour les habitants, les scolaires et les visiteurs. Le maire l'a rappelé dans un parallèle poétique. Comme cette petite rivière qui ne cesse jamais de couler, que la mémoire de ces moments de l'histoire ne s'arrête jamais. À l'heure où les derniers témoins de la Shoah disparaissent, où les discours de haine resurgissent parfois, cette initiative locale prend un sens encore plus fort. L'histoire des Justes de Noélé rejoint celle de tant d'autres villages français, comme Dieu le fit dans le Dôme ou le Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, qui ont protégé des enfants au péril de leur vie. Mais ici, en Anjou, elle porte un visage, une voix, celle de Bernard Goldberg, 88 ans, qui n'oublie jamais de revenir dans le village où sa vie a été sauvée. Une plaque commémorative sera installée dans les prochaines semaines pour compléter le lieu.
Merci beaucoup Sidonie. Effectivement, l'histoire avec un grand H, on oublie parfois qu'elle a des répercussions, qu'elle a des ancrages ici, juste à côté de chez nous, à Noëlet, dans le Haut-Anjou, dans le Segréen. Et puis on vous encourage à découvrir un petit peu plus de notre histoire locale, car vous serez étonnés de découvrir par exemple que Marie de Médicis s'est battue avec son fils Louis XI ici, dans les plaines de Sorge, à côté de Saint... C'est à côté de Sorge, je suis perdu, à côté des Ponts de C, tout simplement, là où il y a le Décathlon actuellement. Et oui, ça, on l'ignore totalement. Il y avait Richelieu, tout ça, c'est ici. Donc, on vous encourage, par exemple, à aller voir la chaîne YouTube Clic Clac Topette. Pourquoi pas? Voilà, un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Tu fais quoi? J'ai pas d'infos à dire. Je sais pas si t'as des infos, toi, des marchés de Noël qui te bottent avant d'accueillir nos invités, que tu vas faire peut-être pendant les vacances aussi, Denis?
Alors là, je sais pas trop ce que je vais faire pendant les vacances, mais oui, sûrement des petits marchés de Noël et puis surtout voir la famille.
Est-ce que tu feras au premier de l'an? Ça va rester confidentiel avec toi et tes amis, bien évidemment.
Roger X, ouais.
Ah oui, d'accord, ok, bon, c'est toi qui te dis. Sans transition, on accueille nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Ça va? Ça va mieux?
Oui.
Oui.
Mais
oui,
je suis reparti.
Les petits virus, on est tous passés par là. Hein. Le froid, quand il arrivait en novembre, ça nous a tous scié en deux. Heureusement, tu es en pleine forme. De nouveau, les deux morceaux assemblés pour pouvoir nous parler de la programmation des Folies Angevines. Est-ce que tu peux nous faire un petit menu, avant de laisser la parole à Capucine et Antoine, de ce qui va attendre les spectateurs et spectatrices, les Angevins, les Angevines, s'ils viennent aux Folies Angevines? On a des temps forts, on a beaucoup de cabarets, j'ai l'impression.
Absolument.
Le dîner de cons s'est bien passé? Est-ce qu'on a encore des dates? Par exemple, des choses comme ça.
Ça s'est terminé vendredi dernier. C'était la dernière vendredi dernier. Ils ont joué une trentaine de fois aux Folies là depuis qu'ils ont commencé. C'était en octobre, fin octobre la première, et ils n'ont pas arrêté depuis. C'était deux sessions à chaque fois qu'ils jouaient chaque soir, donc à 19h et 21h ils enchaînaient et ils ont relevé le défi brillamment.
Donc il y a Dîner de Con qui a rempli les salles. La salle des Folies Angevines.
Absolument, ouais, ça a été complet quasiment à chaque fois, même pour des dimanches après-midi. Ben en fait, c'est bien la bonne solution pour occuper son dimanche, d'aller voir un petit spectacle aux Folies.
Et d'ailleurs, puisqu'on est à l'approche de Noël incessamment sous peu, on est le 17 décembre, donc c'est la semaine prochaine, quasiment dans une semaine, on sera au réveillon de Noël. Est-ce qu'il y a des programmations spéciales, sans parler du cabaret des Noctambules, hein, est-ce qu'il y a le Père Noël qui va venir? Est-ce qu'on a des temps forts un peu identifiés, même en interne, aux Folies Angevines?
Ça, on n'a pas le droit de le dire. Parce que le Père Noël nous a mis dans la confidence. Et peut-être qu'il sera là, mais officiellement, on n'a pas le droit de vous le dire.
Ah oui, ça on le sait pas. En tout cas, il y a un sapin de Noël qui a dû être installé dans le bar, peut-être.
Oui, il est tout mignon, il est tout petit.
C'est toi qui l'as fait?
Oui, c'est... Oui.
Bon, tu nous enverras une photo, on mettra ça sur l'Instagram. Est-ce qu'on a d'autres dates, plus sérieusement, que tu souhaites évoquer d'un tout petit mot avant qu'on entende Capucine et Antoine pour de bon?
Je pense qu'on peut laisser la place au cabaret des Noctambules, parce que ça va vraiment être notre gros temps fort de ces fêtes de fin d'année. C'est ce qui va finir l'année 2025 en beauté chez nous.
Et oui, 2025, on lui dit déjà au revoir, et justement, on va pouvoir lui dire au revoir le 31 décembre, jusqu'au 31 décembre, c'est à partir du 22 décembre avec le cabaret des Noctambules, un dîner spectacle pour fêter la fin d'année tous ensemble. Et justement, Capucine et Antoine sont avec nous. Bonsoir Capucine.
Bonsoir.
Et bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Alors j'ai plein de questions à vous poser, parce que déjà vous allez nous parler de ce format, du cabaret, de l'univers, de l'historique aussi, pourquoi pas. Et puis de vous, quel rôle vous tenez précisément? J'ai cru comprendre, Capucine, que tu étais comédienne. Toi aussi Antoine?
Oui, je suis comédien sur le spectacle aussi.
Voilà, alors c'est un spectacle. Le cabaret des Noctambules, c'est le nom du spectacle?
Exactement, oui. C'est le nom du spectacle et le nom de notre troupe, finalement. Voilà.
Des deux en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles dans la troupe ou pas?
Eh bah, ben, pour l'instant, justement, c'est notre premier spectacle, donc qui s'appelle Nuit éternelle. Vous avez peut-être pu le voir sur certaines coms. Mais voilà, pour l'instant, c'est notre premier spectacle qu'on a commencé la saison dernière déjà au Folies Angevines. Et voilà, l'aventure continue.
Alors, cabaret, c'est à la mode, j'ai l'impression, surtout aux Folies. Hein. Il y a beaucoup de cabarets. Moi, il y a des images qui me viennent, il y a l'imaginaire collectif qui fait appel à nous. Sidonie, par exemple, tu as peut-être des choses qui te viennent en tête aussi quand on évoque le mot de cabaret?
Bah, les cabarets, direct, c'est les froufrous, les trucs un peu soit parisiens ou même anglais que je vois dans les films, mais c'est toujours extravagant un peu.
Ouais, moi, ça fait un mix entre Moulin Rouge, l'univers drag aussi, qui revient beaucoup sur le devant de la scène en ce moment. Est-ce que on se trompe? Est-ce qu'on peut avoir, Capucine, Antoine, un historique du cabaret que peut-être que vous avez en tête? J'imagine que ça vous a influencé, que vous appréciez ce sujet, donc vous avez peut-être deux, trois éléments, Antoine?
Bah, exactement. Le cabaret, c'est beaucoup de choses, à vrai dire. Et je pense que, justement, ce spectacle-là parle de toutes ces choses. On a à la fois de la danse, du chant, de la marionnette, du transformisme, du clown. Donc c'est assez varié, mais en fait c'est ça le cabaret, c'est une maison pour les artistes dans lequel tout type d'artistes se retrouvent et voilà, ils forment ensemble un spectacle. Donc je pense que le cabaret des Noctambules est empreint de toutes ces références-là, tout en se marquant d'une certaine manière de son présent, voilà. Moi, il faut savoir que je fais beaucoup de drag aussi dans la vie, donc je pense que j'ai un peu la notion de ce qu'on va appeler néo-cabaret, ou en tout cas de ces scènes cabaret, voilà, qui se font beaucoup en ce moment. Et voilà, on va dire que c'est un mariage entre toutes ces références qui nous ont inspirés, et on va dire nos références du présent. Et tout ça forme sûrement le cabaret des Noctambules.
Étymologiquement, vas-y Capucine, tu voulais
oui,
rajouter quelque
que
chose.
Peut-être ce qu'il démarque un peu de l'imaginaire qu'on peut avoir du cabaret, des scènes du Moulin Rouge notamment que vous citiez, c'est qu'on est vraiment sur l'histoire d'une troupe qui se connaît très bien, et donc il y a ça aussi qui apporte de la valeur à ce qu'on raconte.
Dans le spectacle ou le fait que vous soyez vous une troupe avec une histoire?
Dans le spectacle, alors nous on se connaît, mais effectivement les personnages, on a vraiment des personnages qui vont raconter à travers cette forme de cabaret et donc ces arts-là qui se mélangent.
En réalité, on vient pas voir juste une revue avec un enchaînement de numéros. On vient rencontrer une troupe et on va vraiment à la rencontre de ces artistes-là. On apprend à les connaître pendant le spectacle. Et à la fin, je pense qu'on peut même s'y identifier. Genre, tout le monde peut s'identifier à ces personnages-là. Donc, c'est ça qui est un peu touchant.
Cabaret, nuit éternelle, c'est presque un pléonasme. C'est comme monter en haut. Le cabaret, le monde de la nuit, c'est quasi indissociable, Antoine, Capucine.
Presque que ça. Faut venir pour le savoir.
Ah, que de mystère. Bon, on va laisser encore un petit peu tout ça planer. Je vais essayer d'avoir des réponses à ce mystère. On fait une pause musicale. On écoute Una Sola Voz de Macaco sur le 101.5 FM et on revient ensemble juste après. Pourquoi tu rigoles, Sidonie?
La unidad es la variedad. Y la variedad de la unidad es la ley suprema del universo. Canciones, uno puede ser la soledad o un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. ¡Hey! Una sola voz seremos. Para plantas en dolores, puños cerrados nunca podrán
sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por Río Plata de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz.
La sola bosse des macacos sur le 101.5 FM de Radio G.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Et pendant ce temps-là, Sidonie qui envoie un texto. Eh oui, texto ou SMS ou message, peu importe. En tout cas, texto, ce sera le sujet de la Madeleine du Graal. C'est pour ça que Sidonie, que je dis ça, elle n'est pas vraiment en train d'utiliser son téléphone. Sidonie qui a un accent espagnol irréprochable. Elle nous l'a montré pendant la pause musicale. On va retourner à notre sujet de la soirée. On est toujours avec toi, Pauline, toi, Capucine et toi, Antoine, pour parler notamment du Cabaret des Noctambules qui propose une nuit éternelle. D'ailleurs, il faut que je rajoute un E à éternel à la fin. Une nuit éternelle entre le 22 décembre et le 31 décembre au Folie Angevine. C'est un format particulier puisqu'on va pouvoir manger avant. On peut aussi aller seulement au spectacle. Ça, on va parler un petit peu des contours un peu techniques avec toi, Pauline, dans quelques instants. Mais avant, avec Antoine et Capucine, on s'intéressait à l'univers du cabaret. Alors effectivement, c'était prévu et je vous ai entendu en parler pendant la pause musicale, le côté rassuré, parce que c'est vrai que cabaret, nuit, avec tout ce qu'on a en tête, univers drague, on se dit bon bah faut être un petit peu initié, faut peut-être que c'est un peu trash, peut-être que c'est provoque. Est-ce qu'on peut y aller avec nos enfants, nos grands-parents? On y va avec qui? C'est pour qui en fait ce spectacle, Capucine?
Bah c'est un spectacle vraiment qui rassemble. C'est un spectacle très drôle, donc déjà on peut venir rassurer,
rigoler,
ce qui fait vraiment du bien cette période hivernale.
On peut venir pleurer aussi. Et je crois que c'est ça aussi la force du spectacle. C'est un spectacle qui nous fait du bien parce que il nous émue, il nous fait rire. Voilà. C'est un véritable voyage dans le temps. Voilà. Donc je pense que ça fait du bien un peu de sortir du quotidien. Et c'est vrai qu'il y avait cette image de rassurer parce que des fois dans le mot cabaret, on entend malheureusement le mot aussi dénudé, etc. Et on n'est pas du tout là-dedans dans ce spectacle-là. Donc, pour les fêtes de la fin d'année, c'est vrai que voilà, on est vraiment dans aussi un aspect magique. Je pense que c'est un spectacle qui est magique. Donc voilà.
En fait, j'ai l'impression que c'est un spectacle, on l'a pas trop décrit, mais je le vois comme ça à vous entendre parler, un spectacle dans lequel on s'émerveille de prestations, d'incarnations de personnages, que ce soit via le transformisme, l'univers drague, ou alors les marionnettes, on se projette comme ça, ou alors en plus il y a un message, des choses qui passent au travers de ces performances, Antoine, Capucine.
Bah c'est sûr, c'est rempli de performances. Ça, c'est ce qui fait le charme de ce cabaret. Et de ce fait, on passe forcément des messages parce que je pense que quand on monte sur scène, c'est forcément pour véhiculer des messages. Donc voilà.
Capucine, toi, en tant que comédienne, justement aussi, le plaisir qu'on peut avoir à être sur scène au-delà de la performance, de se dire waouh, ça résonne en face, ça émerveille, ça divertit dans le bon sens du terme.
C'est un espace que je connaissais pas avant que Antoine me propose ce spectacle. Et le cabaret, c'est vraiment un espace de liberté. Moi, je suis MC, maîtresse de cérémonie.
C'est ça que ça veut dire, MC ?
Oui.
Tu me l'apprends, je ne le savais pas.
Et donc, c'est vraiment un espace où on a de la liberté, on est vraiment avec le public, et donc on rit ensemble. Enfin, c'est vraiment un espace de connexion qui est vraiment un plaisir. Je crois que les gens repartent vraiment heureux. Donc ouais, à titre personnel de comédienne, de chanteuse, eh ben, c'est vraiment un espace merveilleux.
Antoine, c'est aussi les raisons pour lesquelles tu prends plaisir à être sur scène, toi ?
Oui, je pense que c'est ça qui est particulier avec le cabaret, c'est qu'on est vraiment avec les gens, on parle vraiment d'eux. Moi, j'aime dire, j'avais lu une citation comme ça qui disait que le cabaret était le miroir de nos vies. Et je pense que des fois, pour plein de raisons, ça peut se perdre un peu. Aujourd'hui, il y a des spectacles sensationnels de cabaret et tout ça. Et c'est bien le spectaculaire, c'est bien la sensation, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne des gens. Et surtout en ces fêtes de fin d'année, on propose un spectacle de cabaret, on propose un dîner-spectacle parce qu'on propose un moment avec les gens. Et je crois que c'est cet héritage-là du cabaret qu'on a toujours voulu garder dès le jour 1, c'est de se dire c'est un spectacle qu'on fait avec les gens, on parle d'eux et on parle de nous.
J'ai envie d'amener ça sur la table, ce sujet-là sur la table. Est-ce qu'on n'est pas sur un turning point, comme on dirait à l'anglaise, où le cabaret, l'univers drag, toute cette discipline-là, c'est le côté divertir pour le plaisir aussi est en train de prendre une sorte de lettre de noblesse. On connaît la culture qui, des fois, voilà, faut un peu une initiation, on va sur du classique, des choses comme ça. En fait, clairement, je pense à Thomas Joly, qui a mis en scène la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui était aussi directeur du Centre Dramatique National Le Quai à Angers. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose un petit peu pas encore tout à fait sur le devant de la scène et que depuis, voilà, on a franchi le pas, c'est plus accepté. Et justement, on est sur l'idée de se dire, on peut se faire plaisir, aller voir des choses qui... tu parles d'effet miroir, Antoine, que les personnes comédiens, comédiennes prennent plaisir et que les spectateurs, spectatrices aussi, qu'il n'y a plus ce tabou du « ah oui, mais ça, pas bien, ça bien » et tout.
Ouais.
Et que tout le monde prend plaisir à se dire « ouais, on se divertit, mais ça fait du bien aussi et c'est pas, comment dire, mauvais ou je sais pas quoi. »
Exactement, oui. Je pense qu'en réalité, ça fait des années que le cabaret existe en France et que c'est une passion particulière en réalité pour les Français. Mais c'est vrai que là, on connaît quelque chose qui est plus... c'est un art qui est peut-être plus représenté aussi dans les médias et plus accepté parce que justement, il était... c'est un héritage aussi de la culture queer, c'est un héritage aussi, des artistes, des travailleuses du sexe, voilà. Et donc... qui étaient, effectivement, c'est des communautés qui étaient pas forcément, qui étaient un peu marginalisées dans nos sociétés. Donc, forcément, on allait voir des spectacles de cabaret, mais ça restait quelque chose de, voilà, qu'on mettait un peu de côté, qu'on marginalisait un peu, et ça pouvait être un tabou, effectivement. Aujourd'hui, c'est des communautés qu'on met plus en avant, qu'on essaye de comprendre. Et donc, voilà, je pense que oui, forcément, le cabaret revient parce que je pense que, plus que jamais, devient un art de son temps, en fait.
Je prolonge un tout petit peu la parenthèse aussi avec... tu utilises le terme queer qui veut dire étrange initialement, donc pour
Exactement,
désigner
ouais.
plutôt pour exclure, répulser une communauté. Ça fait aussi comme pour les geeks. Les geeks, à la base, ça veut dire fou en allemand. Enfin, c'est le terme geek en allemand, qui aujourd'hui, un geek, bah, c'est presque valorisé, finalement.
Exactement, ouais.
On est aussi sur... vous le sentez, vous, à être sur scène, ça ?
Oui, on le sent, même si je pense qu'en réalité, ça reste quand même un travail de tous les jours. Je crois que encore aujourd'hui, et aussi parce que je fais de l'art queer aussi dans ma vie, ça reste quand même quelque chose que, oui, qui est valorisé, on trouve nos espaces, et en même temps, c'est une bataille de chaque instant, donc rien n'est gagné. Donc je sens, on va dire, les deux choses. Je me sens à la fois toujours bizarre et un peu plus accepté peut-être.
Voilà. D'où l'importance de préciser que ce spectacle est vraiment accessible à tout le monde, que c'est pas une promotion de quelque chose de je sais pas quoi, comme on pourrait entendre dans les controverses et compagnie. Sidonie, est-ce que c'est un peu plus clair pour toi ce qu'on va voir sur scène ou Antoine et Capucine mériteraient peut-être de redonner un peu plus savoir de ce qui va se passer?
J'ai envie d'en savoir plus, ça m'intrigue, j'ai envie d'y aller, car j'ai pris note.
J'adore.
C'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Et du coup, bah, ils m'ont déjà très bien expliqué, j'ai beaucoup mieux compris et j'en attends encore plus.
Par exemple, marionnette, quand on disait marionnette tout à l'heure, Capucine, c'est quoi? C'est marionnette à la main? Alors, c'est marionnette derrière un comme les guignols? C'est comment?
C'est une marionnette qu'a donc le MC. C'est une marionnette à main.
Exactement.
voilà, auquel on s'attache tout au long du spectacle et qu'on découvre également. Donc oui, c'est une marionnette très libre de sa parole. Et il y en a d'autres qu'on découvre également dans le spectacle.
On a un petit moment théâtre guignol, un petit peu, voilà, en référence. Moi, ça m'a toujours fait triper, justement, les théâtres de guignol. Donc voilà, je me suis dit, c'est le spectacle où on a envie de voir tout type d'art, donc faisons-nous plaisir, et voilà.
J'imagine aussi beaucoup de couleurs, alors peut-être que je suis influencé par cet imaginaire collectif, mais est-ce que c'est le cas aussi avec beaucoup de j'imagine aussi des plumes, des choses comme ça?
C'est vrai que on n'est pas fâché avec les plumes.
Ni les confettis.
Synthétiques ou synthétiques, les plumes? Les confettis aussi?
Oui, bah oui, c'est la fête, c'est le cabaret.
Effet pyrotechnique ou pas? Pas de feu d'artifice? Alors, quand même.
Après,
pas trop le droit.
On peut pas tout dire. Ça donne.
Oh, bien sûr. Bah voilà, voilà.
Il faut venir.
On peut pas tout dire parce que il faut venir, effectivement. Alors, pour les infos pratiques du 22 décembre au 31 décembre, ça on le rappelle. Pauline, reste dans les starting blocks. On va parler du dîner maintenant qui va être en amont. Et puis après, non, c'est qu'en amont du spectacle.
Oui, c'est du coup à partir de 19h avant le spectacle, les gens peuvent venir manger et déguster des petits plats qu'ils auront choisis sur un menu concocté par ma collègue Nolwenn.
J'ai survolé le menu, j'ai déjà faim. J'ai déjà envie d'être au 31 décembre puisque c'est un petit peu voilà, il y a des fruits de mer notamment, je crois.
Bah en fait, on a concocté du coup deux menus différents, l'un pour la première partie, donc du 22 au 30 décembre, et un menu spécial réveillon. Mais là, que je vous laisse découvrir du coup par vous-même, effectivement, il y a des petits produits assez typiques des fêtes de fin d'année.
Et on en parle de ce format-là dans quelques instants. On va juste laisser Sidonie et finir d'envoyer son texto.
Plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal. C'est la Madeleine du Graal.
C'est la Madeleine du Graal.
Daron Daronne, bienvenue dans la Madeleine du Graal. C'est votre chroniqueur préféré à l'antenne pour notre rendez-vous Nostalgie 90s. Aujourd'hui, on plonge dans un objet qui a révolutionné notre vie sociale et qui a fait trembler nos parents quand ils recevaient la facture. Le texto, ou SMS pour les puristes. Ce petit son, mes amis, c'est l'équivalent sonore de la liberté. Le signal que notre message s'envolait vers notre crush, notre meilleur ami, ou pour prévenir nos parents qu'on rentrerait un peu tard. Apparu dans les années 90, les SMS ont vraiment explosé au tournant des années 2000. À l'époque, on payait chaque message, jusqu'à 1 franc, puis 15 centimes d'euros. Une fortune pour nos maigres économies d'ados. Souvenez-vous de cette prouesse technique, taper un message sur un clavier à 12 touches où chaque touche contenait 3 ou 4 lettres. Il fallait appuyer plusieurs fois sur la touche pour atteindre la bonne lettre. Pour écrire « ciao », c'était 3 pressions sur le 2, 3 pressions sur le 4, 1 sur le 2, 3 sur le 6, et enfin, un véritable sport olympique pour les pouces. Et la joie quand les premiers téléphones à écriture prédictive sont arrivés. Le fameux T9, une révolution qui produisait parfois des messages totalement incompréhensibles. Nous avons aussi inventé tout un langage pour économiser les caractères et les centimes. Salut, CV, RDV, 2M1, A8H. Devenait compréhensible pour toute une génération, mais restait un mystère total pour nos parents. Les 160 caractères maximum par message nous ont appris la concision bien avant Twitter. C'était un art de tout dire en si peu d'espace. Et quand on dépassait, quelle tragédie! Le message était coupé, ou pire, facturé double. Et les disputes par SMS, ces longs échanges où l'on attendait avec angoisse la réponse, guettant le téléphone comme si notre vie en dépendait. Oh, il a mis 10 minutes à répondre. Il ne m'aime plus! Sans parler des premiers émojis, ces combinaisons de caractères qui formaient des visages. Un sourire, une tristesse, et puis le mythique clin d'œil qui pouvait soit sauver une relation, soit vous mettre dans un embarras total, selon le contexte. Aujourd'hui, aujourd'hui avec nos messageries instantanées gratuites, nos smartphones tactiles et nos émojis colorés. On a du mal à imaginer ce monde où chaque caractère comptait, où l'on abrégeait tout, où l'on planifiait ses messages pour ne pas ruiner son forfait. Et, avouez-le, il y avait quelque chose de magique dans cette époque. Une certaine authenticité, une valeur à la communication. Quand on recevait un SMS, c'était que la personne avait vraiment fait l'effort d'écrire, de payer et d'attendre. Alors, la prochaine fois que vous enverrez un message avec vos pouces qui glissent sur un écran tactile, pensez à l'époque où ces mêmes pouces dansaient sur les Nokia 3310, où l'on comptait les caractères et où on priait pour que le message arrive malgré un seul bâton de réseau. C'était la Madeleine du Graal, un podcast produit par les studios 5 Sens et en partie réalisé à l'aide d'IA. À bientôt pour un nouveau voyage dans vos souvenirs.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal, c'est la Madeleine du Graal.
La Madeleine du Graal, que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio pour découvrir toutes les Madeleines de Proust, hein, c'est ça le truc, le micro-ondes, les livres dont vous êtes le héros, la télécommande universelle, les catalogues, et oui, qui a connu, ou le crayon 4 couleurs qui, normalement, est toujours un peu d'actualité. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire, oula, il y a quelqu'un qui rigole, on va y une petite virgule, on va retourner à notre sujet de la soirée. C'est mon accent espagnol de tout à l'heure, Pauline?
Non, c'est la liste des trucs où vraiment je me dis, mais il y a des gens, ça va même pas leur parler parce qu'ils sont trop jeunes.
Talkie Walkie, par exemple.
Oh la vache. Ouais, non. Il n'y avait pas Tamagotchi sur la liste?
Ah, il y a vraiment la partie droite de. Si. Oh la vache. Si, télé-réalité, téléphone fixe, Tamagotchi, les Pogs, Game Boy. Les Pokémon.
Ça me fait peur que ça me parle, tous ces trucs.
Tamagotchi, et si je te dis Diddle?
Bah évidemment, et puis en plus, les feuilles parfumées, là. Génial,
le crayon qui écrit pas, qui écrit mais qu'on voit pas pour ensuite.
Bah oui, parce qu'il y avait une petite lumière. Après, c'est les stylos magiques.
Bon, bah ça laisse deviner un peu la tranche générationnelle dans laquelle nous faisons partie. Et puis il y a l'autre équipe en face. On n'est pas là pour parler de ça ce soir dans Topette. On est toujours là pour parler du cabaret des Noctambules pour leur nuit éternelle. On est avec Capucine et Antoine. D'ailleurs, je vous ai pas demandé. Vous êtes deux là ce soir en studio. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cette troupe justement? Oui. On peut, alors si on n'a pas beaucoup d'autres, on peut peut-être au moins les citer. Capucine.
Alors nous sommes six.
Six au total. Six donc, au total. Ça fait 4 ans en plus. On peut au moins leur dire bonjour.
Bonjour à eux. Donc je dis bonjour à Alexis, à Nel, Armel et Maxime. Voilà, qu'on embrasse fort.
Tout le monde sera sur scène. Comment sont répartis les rôles? Il y aura du monde en technique, la lumière, la musique, peut-être aussi.
Bah, il y aura du monde en technique, ça c'est sûr. Et sinon, ouais, tous les six, on est sur scène ensemble. Voilà, et on se lance la balle, histoire que les gens n'y voient que du feu.
Qui n'y voit que du feu, qui se réveille aussi, parce que peut-être qu'il y aura la digestion qui commencera tranquillement, car il y a un repas juste avant. Pauline, est-ce que tu peux nous parler de ce format très convivial, pour le coup, où on mange juste avant le début du spectacle? Comment ça marche?
Absolument. Donc, quand vous réservez votre place, vous êtes conviés à arriver dès 19h, où on va... Enfin, même un petit peu avant, du coup, parce qu'on va commencer à servir le repas à 19h sur les soirs de représentation. Et vous avez un superbe menu qui a été concocté, du coup, par ma collègue Nolwenn, qui vous offre des options végétariennes. Ce qu'on a pu remarquer que dans les différents dîners de fêtes de fin d'année qui pouvaient être proposés ailleurs, c'était pas forcément toujours le cas d'avoir cette option-là. Donc, on a voulu laisser le choix... à tout à chacun de pouvoir prendre ce qu'il voulait, quoi. Vous avez à chaque fois le choix entre deux entrées, deux plats et deux desserts, que ce soit pour le menu qui du coup, comme je disais tout à l'heure, qui est pour du 22 au 30 décembre, et ce sera également le cas pour le menu du 31 qui est un petit peu plus spécial.
Bah oui, c'est Noël, forcément. Enfin, Noël, c'est le nouvel an. C'est vraiment la fête de fin d'année.
C'est ça.
Sidonie, manger avant un spectacle ou quasiment pendant, toi, t'as jamais fait, j'ai l'impression.
J'ai jamais fait, mais c'est sûr, ça met dans l'ambiance directement. On est déjà dans la salle, tout ça, avec les mêmes gens, les mêmes spectateurs, avec qui on peut discuter aussi, je pense. Donc non, ça serait à expérimenter.
Alors, on sait que au cinéma, par exemple, dans le temps, jadis, bien avant, au grand jour du cinéma, c'était très vivant. Bon, des gens on fumait hein, dedans, on mangeait, les gens discutaient en fait, parce que avant qu'il y ait la télé, il y avait que le cinéma, donc c'était beaucoup plus convivial. Donc, est-ce que vous, en expérience sur scène, Capucine et Antoine, vous avez déjà vécu des situations annexes où ça vous inquiète entre guillemets ? Enfin, comment vous comporter où ça fait rien du tout de savoir que les gens ont mangé juste avant.
Je pense que ça participe à créer un espace chaleureux et où on se connecte, on se sent dans un peu chez soi peut-être. Enfin, il y a vraiment cette chose-là qui, moi, je pense, est très positive pour créer de la cohésion et de la connexion.
Ça fait un peu dîner du roi où il y a les troubadours et tout ça qui sont autour de la table du banquet, Antoine.
Le cabaret a toujours été un moment pour passer un moment de divertissement et pour passer un bon moment. Donc ça fait partie aussi de son héritage. Les gens venaient pour être dans le pur divertissement. Ils mangeaient, ils buvaient, ils regardaient un spectacle. Et c'était une grande célébration. Donc voilà, on respecte cette tradition.
Et Pauline, c'est presque une tradition aussi aux Folies. C'est pas la première fois. Il y a d'autres spectacles au cours de l'année comme ça, en format dîner?
On l'a effectivement fait il y a une ou deux saisons de cela avec Chicago. Du coup qui avait été produit au Folies Angevine, et là depuis en fait ça a commencé la semaine dernière le 13 décembre, c'était la première du Black Cabaret, du coup qui est également proposé en dîner spectacle immersif là pour le coup, où vraiment on transforme complètement la salle des Folies. Si vous êtes déjà venu voir un spectacle chez nous, là, vous reconnaissez même pas la salle. C'est disposé totalement différemment et les comédiens et comédiennes font partie du staff du coup qui vous apporte vos plats.
Et puis tout récemment, il y a eu le dîner de cons.
Exactement. Là, en l'occurrence, c'était pas proposé en dîner spectacle, mais ça a été un grand succès et on est en train de remettre du coup un coup de boost niveau programmation aux Folies pour reproposer des productions originales ainsi que des comédies, du cabaret, en priorité des choses qui vont rassembler les spectateurs.
Est-ce qu'on a d'autres dates ? Est-ce qu'on a que les cabarets ? Alors le Black Cabaret, comme tu as dit tout à l'heure ?
Ouais, Black Cabaret.
Black Cabaret, le cabaret des Noctambules. On a quoi d'autre en fin de saison là, si on a...
Toujours dans l'univers du cabaret, on a une Drag Night le samedi 20 décembre. Là tout bientôt. Ça joue à 19h et 21h avec nos superbes MC Mystique et les Disgust. Qui seront accompagnés de trois invités cette fois-ci.
Et je reviens sur le terme MC, j'insiste. Maître de cérémonie ou maîtresse de cérémonie, Capucine. Mais pourquoi à l'anglaise, du coup, MC, c'est devenu un terme anglais un petit peu ?
C'est un terme très employé, alors on peut le dire maîtresse de cérémonie. Hein.
Mais même à l'anglaise, le MC, c'est pour dire maître de
cérémonie. Master of ceremony.
On dit voilà, moins MC, ça rend moins bien. Donc
ah oui, Master of Ceremony, ok, d'accord, je comprends mieux tout ça. Voilà, j'en profite d'être à l'antenne pour m'instruire et me cultiver. Ce qu'il faut retenir sur le cabaret des Noctambules et cette nuit éternelle, Antoine Capucine, un moment à passer en famille pour se détendre, pour rigoler, pour manger en plus avant. Quoi dire de plus ?
Exactement, un moment magique pour les fêtes. Voilà, donc venez. Ouais.
Avec peut-être des effets pyrotechniques.
Avec voilà, de la performance en tout cas.
Avec exactement, beaucoup de performance.
Si vous aimez la musique, la danse, les paillettes.
Et l'émotion.
Et puis voilà. C'est une toute première, hein, du coup le spectacle est en rodage, on n'a pas pu le voir encore.
Alors il a déjà joué l'année dernière, mais là il est encore mieux. Et voilà, on a encore amélioré les chorés, amélioré les tableaux, c'est encore plus sensationnel, c'est encore plus festif pour cette période de fête, voilà.
Et la suite du cabaret, il va aller où ensuite ? D'autres spectacles en construction ? D'autres actualités vous concernant, vous, plus personnellement ? Enfin, personnellement, individuellement ?
Alors, on a un Instagram qui s'appelle Le Cabaret des Noctambules. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre la suite de l'aventure. Ensuite, nous, on a évidemment plein de choses. D'ailleurs, moi, je reviens. Là, le spectacle est hébergé, Le Cabaret des Noctambules, par HEC Création. Et cette même boîte de prod héberge la Nuit des Queers, voilà, qui aura lieu le 17 janvier aux Folies Angevines. Donc voilà.
C'est toi qui m'as contacté par mail.
Peut-être.
Peut-être. Oh, bah, je sais pas, on va voir ça. On va voir ça, Antoine.
Des fois, je sais plus, mais peut-être.
Je sais qu'en janvier, voilà, on va reparler de ce sujet, oui. Bon, on va voir ça. Ça se trouve, Antoine va revenir dans
quelques, avec grand plaisir.
Quelques jours, quelques semaines ou l'année prochaine, mais du coup, c'est dans quelques jours. Mais merci beaucoup, en tout cas, Antoine.
Merci à vous.
Et Capucine, te concernant, d'autres projets?
Là, on est sur des périodes de création, plutôt. Donc, peut-être pour les saisons prochaines.
Et ben voilà, ben peut-être que Capucine, c'est une façon aussi de reprendre rendez-vous déjà dans le studio. Pauline, on se revoit nous le mois prochain.
Absolument.
Est-ce qu'on peut avoir un tout petit aperçu de ce qui va nous attendre ?
Et ben, en janvier, l'année en fait va commencer avec beaucoup d'humour pour continuer sur le ton de cette fin d'année où on était sur un moment convivial avec le cabaret. Ben là, ça va être sous le signe de l'humour avec 4 One Man et One Woman Show programmés en janvier.
Et ben voilà, qui est dit, hâte d'y être déjà. Merci beaucoup d'être venu dans Topette ce soir.
Merci.
Nous, on se retrouve demain à 18h10 et on se quitte comme promis avec Choupi Matoudi. À demain, Topette.
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 Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. Ça va vous ? C'est une histoire qui se répète encore et encore. Quelque part en France, une association de protection animale reçoit un message. Bonjour, une chatte est arrivée dans mon jardin il y a quelques jours et j'ai l'impression qu'elle a fait ses petits là dehors, juste derrière mon cabanon. Pouvez-vous faire quelque chose s'il vous plaît ? Je ne peux pas l'accueillir. Et là, généralement, la bénévole qui lit et répond au message a droit à une conclusion au choix. J'ai un chat qui ne supporte pas ses congénères, je suis allergique aux chats, j'ai déjà 3 chats, j'ai un chien qui ne supporte pas les chats, ou, la plus glorieuse des excuses, qui sonne plutôt comme une menace, si rien n'est fait pour eux, je m'en débarrasse demain. Chaque jour, chaque association, où qu'elle soit dans notre beau pays, reçoit des messages comme celui-ci. La réalité de la misère féline, c'est entre autres ça. Une pauvre chatte qui n'est ni stérilisée, ni identifiée, et qui fait portée sur portée dehors. Elle connaît la faim, la peur, les actes de malveillance, les agressions d'autres animaux, les avances violentes de chats mâles non castrés et qui sont prêtes à s'attaquer à ces petits pour avoir accès à elle. La stérilisation des chats est une question de santé publique qui nous concerne tous, a fortiori les propriétaires de chats qui trop souvent prennent la chose à la légère. Pour parler de cette question, j'accueille Priscille de l'association Angevine, mille et une aventures de chats. Bonjour Priscille, comment vas-tu ?
Bonjour, très bien et toi ?
Ça va. Alors, tu es secrétaire de l'association Mille et une aventures de chats. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de vos actions ? Quelles sont vos missions exactement ?
Oui, bien sûr. Du coup, nous avons une asso angevine du coup, qui vient d'avoir 3 ans cette année. Du coup, on a une trentaine de familles d'accueil à peu près, avec environ 60 chats du coup, à l'association. Nos actions, du coup, justement, ça va être, comme tu as dit, la stérilisation du coup, des animaux, l'identification, mais aussi du coup prévenir justement tout ça avec les vaccins, tout ça. Et on cherche une famille d'accueil après, qui prend le chat voilà toute sa vie durant.
D'accord, donc par exemple là, dans le cas de la prise en charge d'une chatte gestante ou d'une chatte avec ses petits, qu'est-ce que ça vous demande en termes de moyens, en termes de mobilisation, de temps, de personnes, comment ça se passe ?
Beaucoup de choses. Déjà, il faut qu'on en discute avec le bureau, donc on sache du coup s'il y a une famille d'accueil de disponible pour accueillir cette minette. Mmh. Normalement, elles sont avec des chatons. C'est rare qu'on ait une minette vraiment toute seule, souvent elles sont pleines aussi. Donc il faut une famille d'accueil disponible pour un biberonnage par exemple, une grande pièce pour une quarantaine pour accueillir tout le monde. Donc beaucoup de moyens, un moyen financier aussi, parce qu'il faut prévoir une stérilisation, l'identification de la minette, mais aussi de tous ces chatons. Voilà, il faut savoir qu'une minette, ça fait à peu près 3 portées par an.
Oui, c'est énorme.
Exactement. Donc du coup, on est aux alentours de 124 chatons déjà la première année.
Ouais.
Et après, la deuxième année, puis après ça monte jusqu'à 1700 à peu près la troisième année.
Oui, c'est vraiment faramineux, les gens se rendent pas compte à quel point ça va très vite.
Exactement, c'est un gros problème, notamment du coup, pas Angers, mais partout pareil, dans les petits villages de là alentours. Dès qu'on est dans une campagne, il y a beaucoup de chats malheureusement abandonnées, non stérilisées, qui font du coup déporter et puis voilà.
Donc du coup, vous, ça vous demande des familles d'accueil, des moyens aussi.
Exactement.
Et c'est vous qui assumez les coûts de, des stérilisations justement de la maman et puis la mise à l'adoption, etc.
C'est ça. On a un vétérinaire du coup partenaire. On en a un petit peu plusieurs, mais principalement du coup le Grand Maine, le vétérinaire Grand Maine sur Angers. Mmh. Et du coup, je sais pas ce que je voulais dire.
C'est pas grave.
mais oui,
vous avez un vétérinaire partenaire avec
voilà,
qui vous travaillez.
Voilà, c'est ça. Et puis heureusement, du coup, on a des dons de personnes aussi, que ce soit du coup de l'asso, mais aussi des dons extérieurs, comme des dons de croquettes. Voilà.
D'accord.
On fonctionne qu'avec ça en fait.
Et qu'est-ce que toi, enfin qu'est-ce que vous, là, à Mille et Une Aventures de Chat, vous aimeriez voir chez les gens? Pour vous aider, en fait, qu'est-ce que les gens pourraient faire pour vous aider? Quelles sont les différentes choses que n'importe qui, moi, celui qui nous écoute, celle qui nous écoute, pourrait faire?
Bah justement, si tout le monde stérilisait, on aurait déjà un petit peu moins de travail et ça permettra du coup beaucoup de bon, au niveau des chats, en fait, la stérilisation permet en fait plein de choses.
Oui.
On pense notamment à la prolifération des animaux, mais il y a plein d'autres bénéfices de stériliser ou castrer un chat, notamment le partage de maladies, mais aussi tout ce qui va être, par exemple, un chat, ça a besoin de faire beaucoup de distance pour trouver un partenaire. S'il est castré, en fait, il va aller moins loin, donc il y a moins de risques d'accident de voiture, moins de risques qu'il rencontre un animal sauvage. Ou un chien par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a aussi du coup tout, ça va éviter tout ce qui va être les cancers au niveau des tumeurs, les mamelles, les cancers des testicules. Ça va permettre aussi ben, justement la prolifération, mais aussi avoir un chat du coup beaucoup mieux au niveau dans sa tête.
Oui, plus équilibré. Exactement. Ça évite les bagarres aussi entre mâles qui, quand ils sont à la recherche de femelles, peuvent, bah, comme je disais, s'attaquer autant aux chatons qu'à d'autres mâles aux alentours pour pouvoir avoir accès à la femelle qui est en chaleur. Donc c'est tout bénef pour tout le monde en fait.
Exactement. Ça permet aussi le, bah, du coup, comme vous avez dit, la transmission du coup notamment du sida du chat, qui est le FIV, et la leucose, qui est le FEVL. Dont on parle pas beaucoup, mais qui sont notamment transmis justement par le sang lié aux bagarres et aux mâles non castrés ou aux femelles.
Oui, donc le FIV, qui est le sida du chat, qui, on le rappelle, n'est pas transmissible à l'homme, c'est simplement une maladie qui se transmet par contact morsure sanguin. Profonde ou relation sexuelle, est une maladie terrible parce que, voilà, malheureusement, il n'y a aucun traitement et aucun vaccin pour cette maladie qui vraiment est très répandue parmi des chats qui vivent dehors, qui sont obligés de subir cette situation. Voilà, donc la stérilisation, c'est vraiment un message important pour chacun parce que c'est autant, ça permet autant de protéger son propre chat de différents dangers que tu as évoqués très justement, que la communauté en général, puisque ça permet de protéger tous les chats en quelque sorte et de limiter cette prolifération qui mine des associations telles que la vôtre, parce que 60 chats, c'est quand même énorme. C'est énorme, ça. Je pense que c'est un beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, qui pourrait être consacré à d'autres choses si déjà les gens stérilisaient, stérilisaient leur chat. Voilà, donc si vous avez un cadeau de Noël à faire à votre chat cette année, pensez-y, une petite stérilisation et ou une identification, hein, on pense, c'est très bien aussi, ça permet de retrouver son chat quand il se perd, faut pas hésiter. Alors Priscille, on arrive à la fin de cette chronique, est-ce que tu avais peut-être un message à transmettre de la part de ton association Mille et Une Aventures de chat?
Alors du coup j'ai deux messages. Le premier, du coup, on a beaucoup d'a priori sur notamment la stérilisation en pensant que le chat va grossir ou en pensant justement que le chat du coup va avoir des problèmes notamment santé ou autre derrière, mais en fait absolument pas. Il y a des croquettes maintenant qui sont spéciales chats stérilisés. Si votre chat garde justement une activité physique adaptée, il ne grossira pas, il n'y aura pas d'autres problèmes derrière. Donc stérilisez vos animaux. Et la deuxième chose, c'est du coup, nous, on est une association du coup qui a 3 ans, on recherche des familles d'accueil, on a besoin aussi de dons. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet, Mille et Une Aventures de Chat. Et puis voilà, on a hâte de vous rencontrer.
Oui, vous avez une page Facebook, exactement, une page Instagram, donc allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut le détour.
C'est
merci
ça.
Beaucoup Priscille, merci
avec
à
plaisir.
Ton association et puis merci de nous avoir écoutés. À bientôt, au revoir.
elle s'appelait Lola. Elle était showgirl, avec ses plumes et son chapeau, sa robe fendue de bas en haut. Elle chantait, dansait, tcha-tcha le meringue. Elle voulait devenir une star, et Tony tenait le bar sur la piste bondée. Lola se déchirait.